Du 29 au 30 avril, les Assises méditerranéennes du journalisme s'installent à Marseille. Trois journées de rencontres et de débats réunissant journalistes et chercheuses. Le thème de cette édition, le journalisme de demain en Afrique et en Méditerranée. Écoutez nos deux émissions au cœur de l'événement, Les Voix méditerranéennes et le journalisme en résistance, en diffusion le mardi 29 avril à 17h30 et Femmes de plume, voix de combat, en diffusion le mercredi 30 avril à 17h30. Sur le 88.8 FM, DAB+, et sur radiogrenouille.com.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille 88.8 en direct depuis Marseille pour une émission spéciale à l'occasion des Assises internationales du journalisme 2025. Nous vous proposons aujourd'hui un plateau radio consacré aux voix méditerranéennes du journalisme en résistance. Des voix souvent contraintes au silence, à l'exil, à la précarité, mais qui persistent, qui racontent, qui dénoncent, des voix qui ne se résignent pas. Ici, autour de la table et à travers les ondes, nous allons entendre des parcours de journalistes venus de Syrie, de Tunisie, de France. Tous et toutes ont choisi de continuer à faire leur métier, malgré les menaces, malgré la censure, malgré les murs. Ils et elles inventent des matières, des manières de dire, d'informer, de résister. Ensemble, nous allons explorer les médias en exil, la transmission dans les contextes fragiles, les nouvelles formes de récits et les nécessaires décentrements de l'information. Parce qu'informer est un droit et parce qu'en Méditerranée, ce droit est souvent menacé, entravé et même réprimé, il est vital de porter ces récits, de leur faire une place. À travers ce plateau, nous voulons aussi porter la question de ce que veut dire faire du journalisme. Aujourd'hui, dans les zones marquées par les conflits, les inégalités, les violences politiques, comment continuer à raconter le monde quand le monde semble se renfermer sur vous ? Au fil de cette émission, vous entendrez des voix singulières, courageuses, engagées, qui nous rappellent que résister, c'est aussi faire radio, écrire, transmettre malgré tout. Et que chaque témoignage est un acte politique, une forme de lumière dans la brume. Pour animer ce plateau aujourd'hui, Antoine et Antonin au micro, et à la technique et à la réalisation de cette émission, ça sera Émilie et Théo.
Les Assises méditerranéennes du journalisme, rencontres et débats en direct du Palais du Pharo à Marseille.
Et oui, on est toujours ici au Palais du Pharo pour attaquer cette deuxième partie de ce plateau en direct des Assises du journalisme qu'on a sobrement nommé Voix de Syrie, le temps de l'espoir. Et pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir Edith Bouvier. Vous êtes journaliste indépendante et réalisatrice dont le travail courageux en Syrie a marqué les esprits. Vous avez couvert de nombreux conflits avec une attention particulière, notamment pour la Syrie. Vous avez été blessée en 2012 alors que vous étiez en mission avec votre collègue photographe Rémi Hochlik. Depuis, vous continuez à porter un regard incisif et humaniste sur cette situation dans la région. Et nous avons également le privilège d'accueillir Loujaine Haj Youssef, chef de la rédaction de Radio Rosanna, une radio syrienne en exil. Loujaine, vous êtes une figure clé dans le journalisme syrien d'exil, apportant une voix importante et indépendante à la situation en Syrie. Radio Rosanna, fondée par des journalistes syriens en exil, joue un rôle crucial en offrant une couverture objective de la guerre. J'aime bien être dithyrambique dans mes introductions, vous aurez pu le comprendre, et j'aime beaucoup faire la biographie des personnes qui nous accompagnent. Loujaine, je vous propose qu'on commence avec vous et avec le rôle donc de ces médias en exil. Radio Rosanna, c'est une actrice ou un acteur essentiel de l'information en Syrie, notamment pour les Syriens en exil. Quelles sont, selon vous, les principales missions d'une radio comme Rosanna et comment est-ce que vous avez pu maintenir la connexion avec les Syriens à l'intérieur du pays malgré la guerre? Et je remercie Théo d'ailleurs qui sera à la traduction pour nous. Puisque Loujaine va parler en anglais.
Thanks for the interview, and I'm very happy to be today with Edith. Actually, I told her that I follow her trip to Syria from the beginning. Actually, Rosanna is coming exactly about why Edith went to Syria. It was just to give the Syrian voices where they don't have a place to present their voices. So we started to work 2013, and it was very important for the Syrian to have independent media platform who can reflect their stories, reflect their lives, and also reflect their thoughts about the Syrian future and of course who the people who was against the Bashar al-Assad. At that time, we started like in a small group, but we were believed that their Syria needs to be a democratic, needs to be finished after more than 50 years of the Assad family's controls on the country. After that, we started to work in Turkey, but still we are, even through the last 12 years, we are working from inside Damascus. Rosanna, yes, they are production coming from Turkey and Paris, but the content creator are all based in Syria.
Donc elle est très heureuse d'être ici avec Edith, qu'elle a beaucoup suivi lors de son voyage en Syrie. La radio Rosanna est là pour donner la parole aux Syriens et Syriennes là où ils ne peuvent pas normalement. Le but est d'être une plateforme indépendante où ils peuvent faire transparaître leur vie, leurs histoires. Évidemment, en général, les histoires de celles et ceux qui étaient contre le régime de Bachar al-Assad, qui étaient donc les premières à être tuées dans leur liberté d'expression. Et accompagner le besoin de cette Syrie d'avoir un retour à la démocratie après 20 ans de régime autoritaire de la même famille. Donc Radio Rosanna a travaillé en Turquie pendant de nombreuses années, 13 ans si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr. Depuis 2013. Ce qui fait 12 ans, bientôt 13 d'ailleurs, et qui travaille désormais aussi un petit peu depuis Paris, depuis différents endroits, mais tous les créateurs et créatrices de contenu sont désormais basés en Syrie et peuvent se servir de ce média comme une plateforme où ils déposent leur création de contenu pour transmettre la vérité citoyenne.
Ils ont toujours eu des correspondants en Syrie, c'est ça la force de Radio Rosanna, c'est que c'est difficile de comprendre ce qui s'est passé en Syrie pendant toutes ces années parce qu'il y avait cette chape de plomb sur le conflit. Et Radio Rosanna fait partie de ces voix où ils avaient des gens partout. Moi, j'ai beaucoup profité de leurs journalistes locaux pour essayer de comprendre, OK, apparemment, il y a ci, il y a ça, il y a telle manif, il y a tel massacre. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Et c'est vraiment reconnu sur le conflit syrien comme une radio neutre, objective et riche de gens courageux. Il faut savoir les risques qu'ont pris ces gens qui risquaient la prison, qui risquaient la mort pour avoir transmis ces informations. Pardon.
C'est très bien ces interventions. Et justement, vous, Edith, comment vous, en arrivant en Syrie, vous arrivez à attraper Radio Rosanna? Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que vous y étiez renseigné avant de vous rendre sur le terrain? Comment ça s'est passé pour vous?
Je les connaissais d'avant. J'ai commencé à couvrir le conflit syrien dès 2011. Et quand ils ont été créés, j'ai rencontré des membres de l'équipe et ensuite je les ai retrouvés sur le terrain plusieurs fois. Parce qu'effectivement, ensuite il y a eu plusieurs mouvements de soutien. CFI, Canal France International, a créé et a soutenu beaucoup de médias syriens. Mais Rosanna était le premier. Donc c'était un appui important. Et puis, il ne faut pas se mentir, moi, mon arabe n'est pas assez fluente. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec des journalistes de Radio Rosanna sur le terrain pour comprendre et traduire.
Cette partie de plateau est intitulée « Le temps de l'espoir ». Et justement, maintenir l'espoir à travers l'information, c'est important. Le travail de Radio Rosanna s'inscrit dans un contexte où les Syriens vivent une guerre longue et très destructive. Comment vous parvenez à maintenir justement ce message d'espoir tout en relatant des événements qui sont la plupart du temps, voire majoritairement, très tragiques? Et comment vous arrivez à dealer avec ça?
I think Rosanna, it was very important because we are focusing about how much the Syrian people, they should know about how the others in different Syria places, they also suffering. Because it was very important not just to feel these people who are living like in Idlib, that they are the only group who are suffering from the war. While even the people who was in the places in the Syrian regime, they have different kind of suffer. So Rosanna all the time have to build this bridge between the Syrian community, which are already divided because of the war, because also the de facto forces who was controlling the country. So all the time we are trying to build this bridge between the Syrian to bring the story. And even when we try to build a story about even the economic, we bring the people suffering from different places in one article. You know, it was very important that actually also the real voices for the people when they are hearing, it's not something we are bringing some people animus. No, they are here themselves. They know themselves, even by video, even by the sound also. So it was very important that we are not animals. We are clear. We have our real people who are talking, and also even the people we were discovered that the people want to build the bridge between together. They also refused the hate of speech between each other.
L'importance de Rosanna, c'était son focus sur comment les différentes communautés du peuple syrien pouvaient se rencontrer à travers les médias et pouvaient comprendre leurs souffrances, qu'ils soient à Idlib ou à Evin, qu'elles puissent comprendre un sujet qui se passe à Evin alors qu'ils sont à Idlib et ou dans d'autres parties de la Syrie, que ce soit des thématiques très spéciales ou des choses plus généralistes, qu'elles puissent retrouver sur chacune leurs souffrances différentes ou sur leurs points communs, et surtout les faire sortir de l'anonymat pour qu'elles puissent avoir des images, des voix, des sons qui font comprendre que ce ne sont pas juste des mirages que la propagande leur donnait, mais vraiment des personnes qui avaient leur discours à eux, et réunir ces communautés syriennes qui ont été déchirées à cause de la guerre et de la haine de la guerre.
I can also talk that Rosanna is very important because we were only the few platforms also who are supported the women inside the country, which is I think we are very proud about this one. We are focusing about the woman, and the people know that when you speak about Rosanna, they already know that we have a brand that we are supporting Syrian women, which is very, very, I think it's very important because we give the woman a safe space to call us and to send us their story and to ask the help and how we can send them the help. You ask about how we can give the people hope if for the future. The hope is coming how they can understand each other, how they now focusing about the constructive journalism, focusing about solution journalism, peace journalism. In this way, we can try to build the hope for these people that, and even understanding the world. There was a mini conflict in the world, but they get solution at the end. So bringing also this experience for different countries where they also have the conflict, and to let them know that they are not alone in the world who are the suffering, and there's also more worst conflict coming in the history, to understand and to find how they can also fight to have a good life in the future.
Importante, primordiale avec Rosanna, c'était qu'elle, c'est une radio qui soutient les femmes, et que quand les gens viennent soutenir Rosanna, il faut qu'ils sachent en premier que c'est avant tout aussi une plateforme qui vient soutenir les femmes, leur créer un safe space pour venir parler, demander de l'aide et surtout savoir qu'elles vont recevoir cette aide à travers un journalisme d'espoir, à travers un journalisme constructif, un journalisme de paix, et aussi à travers un réseau qui, du coup, j'imagine, est établi autour de la radio Rosanna, qui permet de mettre en lien les personnes qui ont besoin d'exprimer leur désespoir et aller chercher de l'espoir. Et donc Rosanna est là pour apporter des solutions et faire comprendre aux gens, à ces femmes, qu'elles ne sont pas seules. J'imagine aussi à toutes les personnes qui écoutent Rosanna qu'elles ne sont pas seules et que la vie n'est pas qu'un conflit et que ce n'est pas le seul conflit de l'histoire, qu'il y a déjà eu d'autres conflits et qui ont aussi trouvé des solutions et qui, de cette manière, leur donner de l'espoir, pour leur donner des solutions pour continuer à rester debout, je suppose. Ça, c'est peut-être pas le bon mot.
Was it right to say debout? To not give up, maybe?
Not give up. Because there's, I think all the world now fighting for democracy. So it's not only the Syrian people. So if we all, the people on the earth, give up for hope to have a good life, no one will change anything for to be and to have a positive life, actually. So the Syrian also. One, they have a worst conflict coming to them, maybe after Gaza war, maybe in the region, but it was very conflict. But also, if they give up, they will not have a good future. We have to fight all the time to get our dreams true.
Il faut se battre tout le temps pour avoir. Je ne voulais pas utiliser le mot battre tout à l'heure, mais du coup, il faut se battre tout le temps pour faire en sorte que nos rêves soient réalité, de garder l'espoir et voilà, et savoir que ce n'est pas la seule région de conflit, qu'il y a aussi d'autres endroits où ça se passe, notamment à Gaza en ce moment, et que du coup, c'est aussi informer sur ce qui se passe dans le reste de la Terre pour faire comprendre que c'est aussi quelque chose de commun, malheureusement.
Justement, je me tourne vers vous, Edith, maintenant. Il y a une question de mémoire collective qui a été portée par les journalistes, aussi bien syriens qu'européens. Comment ça se met en place et comment ça doit se mettre en place dans le futur aussi sur la question du conflit en Syrie, enfin, quelle était l'importance de la présence des journalistes aussi bien européens que syriens? Et du coup, est-ce que ça a créé un décalage justement entre cette mémoire collective portée par les journalistes européens et portée par les journalistes syriens?
Malheureusement, je pense que Bachar al-Assad et son clan ont fait en sorte que les journalistes occidentaux, étrangers, aient très peu accès à ce pays, aux souffrances de la population syrienne. La mort de Marie Colvin et Rémi Hochelik était faite pour ça, pour dissuader les journalistes occidentaux de venir, de se rendre sur place et de raconter la situation. Donc, heureusement, ce conflit est l'un des plus documentés de l'histoire des conflits parce que les Syriens ont fait un boulot incroyable, qu'il n'y a pas un massacre, qu'il n'y a pas une histoire qui n'a pas été documentée. Et aujourd'hui, il y a tout ce travail d'archivage qui est en train d'être fait, qui va permettre un jour d'arriver à une justice. Mais les Syriens ont documenté. On a des dizaines... On connaît le travail de cet homme, de ce photographe militaire, César, qui en 2016-2017 avait sorti les photos des tortures en prison. Mais il y en a des dizaines, des centaines de Syriens qui ont documenté les combats, les massacres, les incarcérations, les décès, les charniers. C'est eux aujourd'hui qui portent le combat pour la justice et le combat pour demain. Et je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les Syriens veulent faire pays ensemble, veulent être un seul pays. Il y a cette phrase qu'ils scandent toujours de dire « nous sommes un et nous sommes un pays, nous sommes Syriens ». Et aujourd'hui, Radio Rosanna résume très bien cela, parce qu'ils ont des gens partout. Ils n'ont pas seulement cette problématique qu'ont eu de nombreux médias, de n'avoir que du monde dans la partie est, dominante kurde, arabe, ou dans la zone ouest, avec la partie qui était anciennement contrôlée par HTS, la zone d'Idlib, donc ce groupe anciennement djihadiste qui a coupé Al-Qaïda en 2016, mais qui est quand même reconnu par les Nations Unies et par les Européens et les Américains comme djihadiste, mais qui aujourd'hui contrôle tout le pays. Et Damas, qui était sous la chape de plomb de Bachar al-Assad et de ses hommes, ils avaient des voix partout. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut raconter, c'est que ce pays ne fait qu'un et ne fera qu'un s'il veut se relever. En fait, s'il veut se relever, il faut qu'il ne fasse plus qu'un, plutôt.
Et alors justement, si on veut mettre en avant toutes ces personnes, toutes ces voix, tous ces photographes, tous ces journalistes qui ont pu être sur le terrain, hormis des canaux comme Rosanna, on entend bien sûr, qu'est-ce qui pourrait être fait avec des nouveaux médias ou juste pour faire œuvre de mémoire sur ces personnes qui ont travaillé sur le conflit et qui ont été peut-être un peu oubliées, entre guillemets?
On a 3 heures.
J'aimerais bien qu'on ait 3 heures.
Ça va prendre le temps, mais moi, j'avoue que j'ai aucun problème à parler du temps de l'espoir, parce qu'on est vraiment dans une période où il y a un espoir dingue en Syrie. Les gens, malgré les difficultés aujourd'hui, malgré les difficultés notamment économiques, parce que c'est un pays qui est toujours sous sanctions et où les gens crèvent littéralement de faim, il y a un espoir dingue, il y a des initiatives de partout. Et pour raconter les précédents morts et pour accompagner les survivants. Et ça va prendre du temps. Mais combien d'années il a fallu après la Révolution en France? Combien d'années il a fallu pour que les précédents des printemps arabes se reconstruisent et dans quel état ils sont? Je trouve que les Syriens ont fait déjà depuis 4 mois un boulot dingue parce qu'ils ont regardé ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'ils ne veulent pas. Donc ils ne veulent pas de fractionnement de leur pays, de communautarisme comme c'est le Liban, l'Irak. Ils ne veulent pas de division de religion qui prendrait le pas sur la démocratie comme c'est le cas notamment en Tunisie. Et ils essayent comme ça de construire quelque chose, de construire leur modèle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, c'est super. Et ça m'amène à vous poser une autre question à laquelle vous avez déjà un peu répondu, mais du coup, je vais me tourner vers Loujine pour lui poser aussi. C'est quoi le futur souhaitable pour vous là-bas en Syrie? Qu'est-ce que vous aimeriez? Déjà, je sais que Rosanna voudrait s'implanter littéralement en Syrie, mais quel est le futur souhaitable?
Oui, Edith mentioned a very important thing, which is the sanction and the economic situation. And actually, it's a very bad situation for all the Syrians. And And somehow I have some argument about the sanction, because if the world now discovered that the sanction is making the Syrian people poor, because the Bashar al-Assad is not here now, but it's the problem that they have to know that this sanction will let the people poor actually when he was as a president. So it's sometimes it's coming like in contrast statement actually. But I think we still have, if we need to go to the future, of course we need to put out the sanction. It's something very, very logic. But also we need to support hope that cannot come without any supports, even as a journalist, even as a Syrian people, because also the new administration and just to accept the world to accept in this easy that Jawlani being Mr. President Ahmed al-Sharaa, it's something also in between, it's something yani, and I cannot on myself understand it, how the people who has the most wanted person being in 4 months Mr. President, you know? It's something, yani. I think there's a problem in the mentality. So I think we have to work how we can have the accountability, how we can work about the transition justice, how we can also having the finance to solve the problem with the sanction, with the poverty, finance also. And I think the education is very much important, because if we didn't build the awareness and we build the educational generation with for the future, actually we lost the country. We were already lost, I think, about 2 generations now. Because the new generation, they will be new jihadists in the future, which it's very important, not only for Syria, it's for all the world. So what we are trying to push the people to understand the challenges that we are going to face if we don't put our hands together to fight to get our hope be true.
Alors, je vais commencer, je te laisserai peut-être Edith rebondir sur la partie politique avec des noms que je ne voudrais pas écorcher et dire de bêtises. En tout cas, ce que tu disais, c'est que les sanctions mentionnées par Edith juste avant mettent les Syriens dans une situation très mauvaise. En effet, elles ont été mises en place pour contrer le pouvoir de Bachar al-Assad et réussir à le faire tomber. Elles l'ont sûrement aidé, elles ont surtout rendu les gens pauvres. Et puisqu'elles existent toujours aujourd'hui, les gens sont toujours pauvres, alors qu'il n'y a plus de régime à faire tomber. Et donc, il paraît évidemment logique de faire tomber ces sanctions pour éviter que les gens continuent à crever la faim, comme tu le disais juste avant, et aussi pouvoir permettre d'investir dans l'éducation pour pouvoir travailler sur une transition, sur les finances et solutionner cette pauvreté, et surtout que l'éducation puisse permettre de construire une nouvelle génération au pays qui a déjà perdu 2 générations dans la guerre, et éviter que cette future génération soit une génération de djihadistes, et leur donner de l'espoir, et leur donner à manger, et leur donner de quoi construire leur vie financièrement. Et je te laisse peut-être rebondir, Edith, sur ce qu'elle disait sur la partie politique, parce que je veux vraiment pas écorcher de dire de bêtises.
L'homme qui est à la tête du pays aujourd'hui, qui s'appelle Ahmed al-Sharaa, était donc le chef de ce qu'on appelle HTC ou HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui est un groupe officiellement, donc je l'ai fait en accéléré tout à l'heure, qui a coupé avec Al-Qaïda en 2016, mais qui est toujours considéré par la communauté internationale comme djihadiste, et avec lequel il y a un vrai problème. Cet homme ne correspond pas. Les Syriens, je rentre là de Damas, et les Syriens avaient cette phrase que j'aime beaucoup, ils me disent « mais c'est pas notre candidat, on n'a pas voté pour lui ». D'ailleurs, cet homme n'est pas élu, mais il a mené les troupes qui ont permis de reprendre le pays en à peine 11 jours. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour les Syriens de réaliser que ce n'est pas leur candidat, ce n'est pas quelqu'un qui correspond à leurs valeurs démocratiques, à leur mode de vie, à tout ça. Mais en même temps, malheureusement, c'est parce que la communauté internationale n'a pas soutenu les Syriens depuis 14 ans que ces gens vivent et crèvent sous nos yeux, parce que, comme on l'a dit, ça a été documenté, ça a été prouvé, ça a été raconté, et qu'on n'a rien fait à part imposer des sanctions. Il faut revenir en 2012, pardon, je fais une parenthèse, quand il y a eu les attaques chimiques, les premières attaques chimiques, le 22 août 2012, à la Ghouta, dans la banlieue de Damas, où là, Barack Obama, François Hollande et tout le monde a dit « mais il faut absolument arrêter cela, il faut bombarder les bases militaires syriennes, il faut arrêter ce massacre ». Et puis plus rien. Et puis, cette ligne rouge a été franchie, on a laissé les gens continuer à mourir et une vingtaine d'autres attaques ont été perpétrées parmi celles qui ont pu être documentées, chimiques, avec tout un tas de produits. Vraiment, on a joué aux petits chimistes en Syrie. On a utilisé tous les produits possibles et imaginables sur la population et personne n'a jamais rien fait. Donc c'est ça aujourd'hui qui est... On ne peut pas reprocher aux Syriens d'avoir ce président qu'ils n'ont pas choisi eux non plus parce que c'est ce qui leur est resté. Il y avait des hommes et des femmes incroyables. Je voudrais juste citer le nom de Basma Kodmani, qui était une grande démocrate syrienne, voilà, qui, moi, m'a fait suivre ce conflit, de Fadwa Soleiman, de toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont porté une voix de la démocratie et qu'on a laissé tomber. C'est eux qui auraient dû être à la tête de la Syrie aujourd'hui et qui seraient une Syrie avec encore plus d'espoir. Mais les Syriens, aujourd'hui, vont devoir continuer à se battre pour imposer leur mode de vie, leur volonté. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est incroyable. C'est que ces gens, malgré l'enfer dans lequel ils ont vécu, malgré la fatigue et la lassitude après 14 ans d'horreur, aujourd'hui s'organisent. Parce qu'il n'y a pas d'argent, ils s'organisent sur leur temps libre. Moi, j'ai rencontré des hommes et des femmes là qui, à côté de leur boulot, font du volontariat et montent des initiatives pour... Effectivement, le problème des écoles est un vrai problème. Les enfants ne vont pas à l'école, d'abord parce qu'il n'y a plus de bâtiments baptisés écoles, que les bombardements russes et syriens ont fait ce qu'on appelle des crimes de guerre et donc ont bombardé sciemment des écoles. Et puis, il faut aussi que ces enfants travaillent pour nourrir leur famille parce qu'on crève de faim, encore une fois, en Syrie. Et il va falloir reconstruire ces écoles, il va falloir donner envie aux enfants de retourner à l'école. On ne peut pas construire un pays avec une génération d'illettrés, avec une génération de gens qui ramassent du plastique le matin, le soir et vivent dans les déchets pour essayer de survivre et d'apporter de quoi se nourrir à leurs proches. Il va falloir les aider. Et à un moment, il va falloir qu'on arrête de détourner le regard et qu'on les aide, qu'on les accompagne, qu'on enlève les sanctions et qu'on finance les médias, les écoles, les projets pour toute la population. Pardon, j'ai un peu monopolisé.
Non, il
n'y
a pas de souci, mais effectivement, je pense que 3 heures n'auraient pas été de... même pas assez. Effectivement, on arrive à la fin de cette vingtaine de minutes ensemble. Déjà, je vous mets... La parole était très bien répartie. Merci à Théo pour la traduction. Merci Lugène, merci Edith. On va faire une courte pause et on va parler d'informateurs et de journalistes en exil avec Walid Bourra qui va nous rejoindre juste après, qui est déjà là. Je trouve que c'était très bien pour faire cette passe. On peut écouter Radio Rosanna sur Internet.
Oui, sur l'Internet, application. Aussi, maintenant, dans la série, il y a la petite FM. Ouais.
Et Edith, on peut vous retrouver. Comment on peut vous suivre ?
Est-ce
qu'on a le droit de vous suivre ? En Syrie, non, je pense que ça sera compliqué, mais est-ce qu'il y a ailleurs
Non,
on peut
je viens
retrouver...
de faire un documentaire, pour ceux qui n'ont pas encore tout compris sur la Syrie, malgré les explications très claires de tous mes confrères et consoeurs. Je viens de faire un documentaire sur France Télé qui s'appelle « Syrie, la chute du clan Assad », où on a suivi et l'avant et l'après et le bonheur des Syriens dans la libération.
Eh ben, on vous invite à aller voir ça. Merci beaucoup Edith, merci Lugène, merci Théo. Et une petite virgule avant d'accueillir Walid.
Les assises méditerranéennes du journalisme, rencontres et débats en direct du Palais du Pharo à Marseille.
Et voilà, on est de retour depuis ce... Oui, et oui, Walid, je te donnerai les stickers, promis, on l'entendra à l'antenne, celle-là. En plus, excuse-moi, j'ai complètement écorché ton nom de famille, c'est Bourouis. Je suis ravi de t'avoir ici sur ce plateau avec Antonin de Radio Campus Montpellier qui est venu nous donner la main.
Et je suis ravi aussi d'être là, merci beaucoup pour l'accueil.
Et voilà, cette partie a été encore une fois sobrement nommée informateur en exil, ou on pourrait dire journaliste en exil. Toi, tu es un journaliste exilé tunisien depuis 2 ans et 2 jours à l'heure de cet enregistrement. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu ton parcours pour commencer ? Je suis sûr qu'Antonin aura des questions pour toi juste après.
Ok, alors pour mon parcours, donc, je suis journaliste tunisien, j'ai 40 ans, donc j'ai fait des études en journalisme, une seule école. On a l'Institut de presse et des sciences de l'information, une seule école de journalisme en Tunisie. Après, donc, un master en Sciences Po, je rejoins une rédaction française dans un journal qui s'appelle Le Quotidien, avant la Révolution. On parle d'avant Ben Ali. Donc après la Révolution, j'intègre ce qu'on appelle les médias confisqués. Les médias confisqués, donc, c'est des médias C'est un 4 en Tunisie, mais qui appartenait avant la Révolution au clan Ben Ali. Donc, on les a confisqués après la Révolution et ça appartenait à l'État. J'étais rédacteur en chef d'une grande boîte de télé qui est aussi une chaîne équivalente de TF1. C'est la chaîne numéro 1 qui s'appelle Tectus Prod. Et la chaîne, elle s'appelle El Hiwar Tounsi. Et je découvre en 2016 un réseau de blanchiment d'argent. Donc, je travaille ma petite enquête. Donc, je te laisse imaginer le rédacteur en chef. Je te laisse imaginer le rédacteur en chef de cette chaîne-là qui dénonce donc ce réseau. Il fait cette enquête, il découvre des sociétés, ce qu'on appelle des sociétés miroirs qui ont été créées pour détourner l'argent public, parce que normalement ça appartenait à l'État, et pour les verser dans des poches des proches et tout ça. On publie l'enquête et ça crée une grande polémique parce qu'on parle de la chaîne numéro 1 et là ça commence les intimidations, l'harcèlement. En plus de ça, il y a des politiciens qui sont impliqués dans cette affaire, il y avait des magistrats, parce que si cette chaîne-là a été sous main de justice, ça n'a pas été vendu, et donc ça a commencé les poursuites contre moi et tout ça. Jusqu'à, on va arriver jusqu'à 2023, oui, ça traîne la justice tunisienne, oui. Donc oui, ça traîne un peu. Déjà, pour l'affaire Cactus Prod, ça a été la première affaire. On a créé un pôle qui est anticorruption en Tunisie, ça a été en 2019. Et c'est la première affaire qui a été devant ce pôle-là, c'était l'affaire Cactus Prod. Mais malheureusement, donc, je vous laisse imaginer, c'est des dictateurs. Donc c'est des chefs du gouvernement qui étaient impliqués, c'est des magistrats. Et donc ils ont tout fait et ils ont réussi à faire disparaître la société. Actuellement, Cactus Prod n'existe plus, mais le témoin numéro 1 et le journaliste qui a travaillé cette enquête, il existe encore. Donc on avait besoin de sa peau, et là, voilà. Donc ils sont retournés contre moi. L'élément déclencheur, c'était le décret loi 54. On trouvera du temps pour parler de ça, parce qu'après la prise du pouvoir musclé de Kais Saied, le 25 juillet 2021, il va créer un décret loi rien que pour faire toute opposition potentielle. Donc tout court pour toute opposition critique, soi-disant au président de la République, aux institutions, vous risquez entre 5 et 10 ans de prison et 13 000 euros d'amende. Actuellement, il y en a plusieurs journalistes, pas que, militants, activistes, politiciens qui sont poursuivis par ce décret-loi. Ce n'est pas même une loi, hein, c'est un décret-loi. Ça a été signé par Kais Saied lui-même, l'actuel président. Et donc, le 16 février 2023, lors d'une manifestation, la veille, Kais Saied, il prononce un discours anti-journaliste. Il nous traite de malfaiteurs, de traîtres, de terroristes. Donc, on organise ce qu'on appelle une journée de la colère avec le syndicat national des journalistes tunisiens. Je suis aussi président de section syndicale. C'était à la place de la Casbah, l'équivalent de Matignon, là où se trouve le palais gouvernemental. Et je prends la parole, ça a été diffusé largement. Abat la constitution qui a été changée, un gouvernement de merde, de marionnettes. J'étais grossier pour être honnête. Pas vulgaire. J'étais grossier, donc, mais pas vulgaire. Et là, donc, cette prise de parole a été largement diffusée. Et grâce à mes ressources, je savais très très bien qu'ils vont m'arrêter. Mon syndicat a alerté la Fédération internationale des journalistes et les syndicats ici en France. Et je quitte la Tunisie. Donc, et actuellement, ils veulent 15 ans de prison contre moi, 5 ans pour le décret loi 54 et 10 ans de prison pour atteinte au président de la République et aux institutions. Voilà un petit résumé. Pas cool, mais voilà.
Merci beaucoup d'avoir déjà brossé tout votre parcours. Moi, je voulais revenir justement sur un point. Vous décidez de publier justement cette affaire en 2016, mais anonymement. Est-ce que déjà, à l'époque, parce que vous avez cité justement la loi de 2021, puis de 2022, qui pourrait vous emprisonner, etc. Est-ce que déjà en 2016, ça vous fait peur, il y a quelque chose, quoi, en tout cas, il y a des risques à encourir?
Il y a des risques parce que, comme je vous ai dit, on parle de la chaîne numéro 1 en Tunisie, donc ça a été sous les mains des politiciens. Et ce n'est pas moi-même, j'ai donné l'affaire, c'est un média alternatif qui s'appelle Nawet. Donc, ils sont présents avec nous actuellement donc, aux Assises, qui ont publié un comme mon collègue Yassine Ennebli. Donc, pour être honnête, je voulais garder l'anonymat. Je voulais rester travailler parce que moi j'ai un rédacteur en chef qui m'a dit un jour, c'était plus ancien que moi, donc il a plus d'expérience que moi, il m'a dit qu'on voulait combattre un système, il faut être dedans. Donc c'est très facile de démissionner. Je l'ai fait au quotidien. Au quotidien, quand j'ai démissionné de ce journal, c'était à cause d'une bataille syndicale entre moi et la présidente directrice générale. Et donc, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, donc j'ai remis ma démission. Et donc là, mon rédacteur en chef, que je peux citer mon nom, il s'appelle Chokri Bakouch, m'a dit, écoute, si tu veux changer les choses, donc tu dois être dedans. Donc en 2016, je décide de publier cette enquête, mais en anonymat. Donc c'est mon collègue qui va faire l'affaire et tout ça. Mais en 2019... Donc, je sors dans la radio numéro 1, qui est Mosaïque FM. c'était 30 minutes, il me donne 30 minutes. Et là, donc, ça crée une polémique générale. Déjà, le lendemain matin, c'était le premier appel que j'ai reçu, c'était la brigade criminelle anticorruption. Bonjour, monsieur Bourguis, on veut vous entendre. Ah ben, c'est maintenant que vous m'appelez. Donc, c'est un peu ça. Après, pour être honnête, des journalistes, cette époque-là, on parle de l'époque avant 2021, ce qu'on appelle une transition démocratique. Mais là, à l'époque aussi, les journalistes étaient harcelés, intimidés aussi en Tunisie. Moins qu'actuellement, c'est beaucoup plus grave qu'à cette époque-là. Mais vraiment, vous risquez plein de choses.
Hein. Donc, et oui, justement, par rapport aux chiffres, donc en 2014, il y avait 236 journalistes emprisonnés, alors qu'en 2023, on passe à 320 journalistes emprisonnés.
Oui, selon les chiffres de l'Observatoire national, voilà, du syndicat national des journalistes tunisiens.
Exactement, ouais. Donc qui augmente de plus en plus. Comment vous expliquez ça
Alors, même, on va prendre même aussi le classement de la Tunisie. On était le meilleur classé en matière des pays africains et arabes. Actuellement, on est 119e. On était 121e, on est actuellement 119e. Je crois que dans quelques jours, le 3 mai, ça va être publié. On va être les 130e, on va perdre des places. Oui, en fait, on explique ça par les lois liberticides. Et pas près, c'est comme tous les dictateurs qui se respectent. Pour eux, leur opposant favori, c'est qui? C'est l'opposition et les journalistes. Et Kais Saïd ne va pas créer un mode autre chose. Il va appliquer le même modus operandi appliqué par tous les dictateurs qui se respectent, entre guillemets. Donc, il va s'attaquer aux journalistes. Actuellement, même, et le syndicat, l'Observatoire, il travaille, publie chaque mois donc, des rapports, et un rapport annuel le 3 mai. On enregistre une vague de haine, d'harcèlement, d'intimidation contre les journalistes, des arrestations arbitraires, donc il y a Sonia Dahmani, Mola Desridi et des dizaines de journalistes qui sont actuellement en prison ou bien poursuivis pour des affaires. Et ça, c'est un peu une spécialité tunisienne. Donc on vous fait une affaire et on peut la laisser au placard. Dès que voilà, on va la sortir, et comme ça donc on va commencer les poursuites contre vous. Donc on parle d'un petit pays, à peu près on est 3000 journalistes en Tunisie, c'est pas grand chose. Je peux te confirmer que à peu près 80% des journalistes ils ont une affaire.
Ils sont listés.
Non, on est tous fichés. Donc pour expliquer un peu cette montée, on va voir, c'est surtout après le 25 juillet 2021, après cette prise de pouvoir musclé. On rappelle que le 25 juillet 2021, Kais Saïd, il va procéder à la dissolution du gouvernement, il va geler le parlement, il va présider le parquet. Donc je te laisse imaginer, il prend l'exécutif. Et il prend l'exécutif, il prend le judiciaire et il prend aussi le législatif. Donc il a le trois pouvoirs. Et maintenant, actuellement, on a un président qui règne à lui seul. Même dernièrement, je peux te raconter une petite anecdote. Cela fait 2 semaines, il a licencié le chef du gouvernement. Il y a une collègue de Monte Carlo Douali, elle m'appelle, elle me dit « Walid, je veux un petit commentaire sur le licenciement et cette dame qui a été nommée ». Mais je lui dis que, désolé, mais j'ai pas de commentaire parce que le mec, il s'appelle Kamel Maddour, il est l'ancien chef du gouvernement, il a passé 7 mois, on ne l'a jamais entendu. Oui, en Tunisie, juste aussi, je peux te parler, le Kais Saïd ne donne pas d'interview. Les deux seules interviews qui ont été faites par Kais Saïd, c'était ici en France. Une avec David Poujadas en français et l'autre avec Tawfik Mjahid en arabe. Comment savoir ce qui se passe actuellement? C'est via Facebook, c'est une société facebookienne, c'est via les pages Facebook que Kais Saïd s'adresse donc au peuple tunisien. Donc ce monsieur qui est Kamel Maddour, je lui ai expliqué, ma collègue, je lui ai dit, écoute, c'est un poids fictif, c'est un chef du gouvernement que personne de la Tunisie n'a entendu sa voix. Il n'a jamais prononcé un discours, on ne sait pas c'est quoi ses lignes, on ne sait pas c'est quoi ses projets, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, on ne sait pas pourquoi il a été nommé, on ne sait pas pourquoi il a quitté son poste. Donc c'est un peu ça, c'est le climat actuel de la Tunisie.
T'as pas peur de parler de dictature,
dictature.
Oui, justement. Mais t'as pas peur d'employer ces mots-là? T'as pas peur de tout ce qui pourrait arriver derrière? Comment tu le vis au quotidien, en fait, aussi, d'être un journaliste en exil et d'avoir un peu un poids? Parce que je pense qu'on peut parler de poids.
C'est un poids, parce que je vais citer un exemple et après je vais répondre à ta question. Ma collègue Shadab El-Hajj Mbarak s'est fait arrêter après que j'ai quitté la Tunisie. Cela fait 3-4 mois à peu près. Elle s'est fait arrêter et on arrête aussi son frère et son père. Pourtant, qu'ils n'ont rien à voir avec son travail. Donc oui, j'ai de la famille là, certes je suis célibataire, mais j'ai de la famille, j'ai ma mère qui est là, j'ai mes sœurs. Mon frère y a été convoqué deux fois, donc la première fois, il est où ton frère, qu'est-ce qu'il fait? La deuxième fois, c'était un peu des interviews, un peu enquête un peu poussée, qu'est-ce qu'il fait en France? Est-ce qu'il a des rapports avec des opposants politiques au régime en France? Parce qu'il y a une grande opposition, et plusieurs opposants, ou bien des anciens ministres, ou bien militants ici en France, donc contre le régime de Kais Saïd. Donc pour être honnête, j'ai rien à perdre. Donc j'ai rien à perdre, parce que quand tu es en exil, c'est le déclassement social, tu vas refaire ta vie à zéro. Donc et pour être honnête, à quoi ça sert donc de changer ou faire une reconversion professionnelle? Donc je suis pas là pour faire un exil ou pour faire une nouvelle vie. Je veux retrouver le chemin de la transition démocratique. On a su le faire en Tunisie le 14 janvier 2011. On était sur la bonne voie, certes, c'est une transition démocratique. Moi, je le dis toujours, on ne peut pas acheter de la démocratie chez Amazon. Voilà, donc c'est les 10 seules années démocratiques de toute l'histoire de la Tunisie, avec des hauts et des bas. Bien sûr, mais quand même, il y avait des institutions. On a réussi à instaurer, par exemple, l'équivalent de l'ARCOM, la AICA. Il y avait des commissions indépendantes, il y avait une nouvelle constitution, donc avec un régime mixte, avec un pouvoir exécutif à deux têtes. Donc, il y avait des libertés. On a gagné plein de places en matière de liberté de la presse. En 2019, le syndicat national des journalistes tunisiens organise ce qu'on appelle les Jeux olympiques des journalistes. C'était les congrès de la FIJ. Il y avait 148 nationalités, 300 journalistes du monde entier. Donc, on était fiers de cette transition démocratique, on sait très très bien qu'on peut le faire. Donc on continue cette bataille, pour être honnête, pour, voilà, pour ceux ou celles qui sont actuellement en prison, puis mon collègue Chavet, par exemple, Chavet, on a fait les études ensemble, Sonia Dahmani, on a travaillé 8 ans ensemble, Mourad Zridi, qui est actuellement en prison, on a travaillé ensemble aussi 8 mois, Borhen, on a travaillé aussi un an ensemble, Mohamed Bouraleb, qui vient d'être relâché, on a travaillé 2 ans ensemble. Comme je vous ai dit, donc, c'est un petit secteur, donc je connais tous les journalistes, je continue cette bataille, pour eux aussi, et pour mon pays, pour le bien de mon pays.
Justement, ma dernière question, avant de te laisser tranquille, et peut-être qu'Antonin aura aussi une dernière question, j'aimerais continuer cette discussion. C'est quoi les prochaines étapes pour la Tunisie? Ou est-ce qu'il y a encore tellement à faire qu'on ne peut même plus parler d'étapes? Pour toi, faut aller vers quoi?
Bon, faut continuer la bataille, mais si on va parler d'étapes, actuellement, je suis un peu pessimiste, parce que Kais Saïd, le 25 juillet 2021, il va commencer son putsch, mais après, de petit à petit, il va donc instaurer la dictature. La première attaque, il va attaquer les magistrats. Il va licencier du jour au lendemain 57 magistrats. Pourtant, le tribunal administratif ordonne que ces magistrats regagnent leur poste, car ils s'arrêtent jusqu'aujourd'hui sans chômage. Après, la deuxième attaque, c'était contre les journalistes. Le décret loi 54 qui a été créé sur mesure pour faire taire toute opposition. Après, l'opposition, c'est-à-dire les partis politiques actuellement en Tunisie, 90% des secrétaires généraux des partis opposition sont en prison. Donc, il a réussi à instaurer un régime. On rappelle aussi la Tunisie, c'est la dictature aussi, c'est un état policier. Voilà, donc c'est la police. Et ça rigole pas, ça date de Ben Ali, ça date de Bourguiba aussi. Donc pour être honnête, ça va être un peu difficile, parce que y a un climat de peur qui règne. Le citoyen, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, il va dire que c'est des militants, c'est des journalistes très connus, c'est des partis, des militants, des avocats qui sont actuellement en prison. Donc qu'est-ce qu'il va t'arriver au citoyen lambda, au monsieur X? Et moi, c'est ce qu'on craint actuellement, parce qu'on a réussi à recenser plusieurs cas, des centaines et des centaines des militants et des journalistes qui sont actuellement en prison. Mais il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui sont actuellement en prison par le biais de décret loi 54 ou par d'autres lois liberticides. Et mais malheureusement, on ne réussit pas à les recenser, ou bien on ne réussit pas à trouver leurs contacts et tout ça. Donc malheureusement, actuellement, il y a un climat de peur qui règne. Sans aussi rappeler que Kais Saïd, il a un soutien de l'Union européenne. Giorgia Meloni, qui visite la Tunisie depuis 5 à 6 fois chaque année. Et même dernièrement, dans un discours, elle a dit, même si le Fonds monétaire international refuse d'aider la Tunisie car il y a une crise économique, c'est l'Union européenne qui doit, bec et ongle, aider la Tunisie. Sinon, c'est la submersion migratoire, le discours, je vous laisse imaginer le discours de l'extrême droite. Donc Kais Saïd sait très très bien qu'à partir du moment que il tient cette carte-là, il a le soutien, il a les fonds nécessaires. Il a donc tout pour instaurer son régime. Mais on continue cette bataille.
Walid, merci beaucoup pour ton témoignage. On espère te retrouver sur les ondes de Grenouille. Antonin, merci pour ta présence.
On
espère
merci. On aurait voulu continuer.
Oui, on aurait voulu continuer. On essaiera de continuer cette discussion. On se fait une petite pause avant d'accueillir nos deux prochaines invités.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les assises méditerranéennes du journalisme, rencontres et débats en direct du Palais du Pharo à Marseille.
Et voilà, on est de retour sur ce plateau en direct des assises du journalisme ici à Marseille avec Sarah Grira, journaliste et rédactrice en chef de Orient 21, et Dima Khatib, journaliste et directrice aussi de AJ+, AJZera, et pionnière de l'ouverture des récits médiatiques à des voix souvent marginalisées. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous pour ce plateau en direct ici des assises. Comment ça va déjà ? J'ai pas assez demandé aux invités comment ils allaient, donc je commence par vous.
Dans le monde actuel dans lequel on vit, dans lequel notre région se trouve, et en ce moment, c'est un peu compliqué.
Oui, je suis d'accord, c'est ma première fois à Marseille, ça me fait plaisir d'être là, mais en même temps, on passe par un moment difficile, on ne sait pas quand est-ce qu'on va perdre encore un journaliste à Gaza, un collègue, une collègue. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'on est dans ce stress et qui n'a pas l'air d'en finir, quoi. C'est difficile de vivre ces temps-là.
Pour apporter juste un tout petit peu de lumière, juste devant nous, on a du public. On a un jeune public, un très jeune public, bonjour. A priori en formation peut-être. Je voulais orienter cette partie avec vous autour de la question de la décolonisation de l'information, parce que c'est des choses que vous maîtrisez tout à fait, donc c'était important de vous avoir ici avec nous. Peut-être plus que décoloniser, on peut aussi parler de décloisonner l'information, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Et pour vous, qu'est-ce que ce serait cette définition de la décolonisation de l'information ?
Décoloniser l'information, tout d'abord, c'est un travail quotidien. C'est pas quelque chose qu'on fait, voilà, on l'a fait et puis ça marche. Parce que ça vient après des centaines d'années de langage colonial, de journalisme colonial. Ça veut dire, ça commence en fait par humaniser nos histoires. C'est-à-dire dans le cas de la Palestine, puisqu'on parle maintenant de Gaza, c'est donner aux Palestiniens le droit de raconter leur histoire et de construire leur récit à travers leur expérience, et non pas un journaliste qui tombe du ciel, tout maquillé, avec des vêtements bien habillés, protégés, bien nourris, etc., et qui regarde l'histoire des Palestiniens et la raconte depuis une construction préfaite dans sa tête, depuis un monde colonial. Donc ça, c'est arrivé pendant cette guerre de génocide à Gaza, parce qu'Israël n'a pas permis aux journalistes d'entrer à la bande de Gaza. Et donc les journalistes palestiniens ont en fait réhumanisé l'histoire palestinienne. On a vu par exemple Bissan Aoudé, qui travaille avec AJ+, qui s'est coupé les cheveux en direct sur Instagram parce qu'il n'a pas d'eau pour se laver les cheveux. Il n'a pas de shampoing. C'est ça, réhumaniser l'histoire palestinienne. Après, il y a la diversité, elle est très importante. Quand on recrute dans la salle de rédaction, on est très conscient qu'il faut non seulement créer une diversité générale, sinon une diversité spécifique dans la diversité. C'est-à-dire, dans la diversité palestinienne, il y a des petites diversités. Il y a les Palestiniens qui vivent à Gaza, il y a les Palestiniens en Cisjordanie, il y a les Palestiniens comme moi qui sont réfugiés à l'extérieur, il y a les Palestiniens qui vivent à l'intérieur d'Israël. Et toutes ces réalités sont différentes. Pour représenter vraiment l'histoire palestinienne, il faut avoir cette diversité. Il ne faut pas l'avoir seulement chez les journalistes. Attention, il faut l'avoir aussi chez les artistes. Il faut l'avoir chez les stratèges. Il faut l'avoir avec tout le monde. Parce que la discussion, elle doit être vive et continue tous les jours. Après, il faut adopter une ligne éditoriale où il faut changer le langage. Le Proche-Orient, moi, ça me fait toujours rire quand on dit le Proche-Orient, parce que les agences continuent à dire AFP, AP, etc., nous appellent à nous. Nous appelle le Proche-Orient. Mais proche de qui ? Proche de l'Europe. Alors que les gens en Amérique latine, ils utilisent ça en espagnol, Oriente Próximo, alors qu'ils sont très loin. Et le contraire arrive aussi avec l'Amérique latine. Les agences utilisent la découverte de l'Amérique. Et nous, dans le monde arabe, on parle encore de la découverte de l'Amérique, alors que franchement, les Européens ils se sont trompés de chemin, ils sont tombés sur l'Amérique, ils pensaient qu'ils étaient en Inde, et ce n'était pas une découverte. Les civilisations qui existaient en Amérique latine, c'est des civilisations qui précèdent même nos civilisations. Et donc, cette domination par les agences internationales du discours qui vient du Nord et qui est en fait propagé par le Sud, entre le Sud et le Sud, il faut la casser. Ça se casse avec une ligne éditoriale claire, une rééducation vers les propres journalistes qui viennent du Sud parce qu'ils ont aussi colonisé dans leur tête.
Complètement dire que le journalisme international repose sur une structure postcoloniale qui est ancrée et qui a du mal à bouger, qui ne bouge même pas, voire peu.
Je nuancerai peut-être un peu d'abord sur la question de la décolonisation. Je suis tout à fait d'accord avec Dima sur le fait que ce qui se passe depuis un an et demi, ou ce que ça a révélé, ce que a révélé cette guerre génocidaire à Gaza par rapport à la couverture en fait occidentale de ce qui se passe en Palestine, c'est quand même un... Enfin, ce n'est pas un précédent, mais on va dire qu'il y a une révélation, une confirmation de quelque chose qu'on voyait et qu'on constatait déjà depuis longtemps. Je veux dire, en France, personnellement, je n'oublierai jamais que pendant les trois premiers mois qui ont suivi, juste après le 7 octobre, en fait, on a eu une invisibilisation totale. Mais totale, en fait, de la Palestine et des Palestiniens. C'est même en termes iconographiques, on n'avait pas, enfin, les images ne passaient pas, et le focus était juste d'un seul côté, du côté israélien, avec cette idée où, justement, en fait, l'empathie ne pouvait être que du côté israélien parce que on s'identifie avec des Occidentaux et la vie des autres, la vie des Palestiniens compte beaucoup moins. Et c'est effectivement problématique parce que c'est non seulement cette invisibilisation s'est faite sur justement cette base de séparation ou d'éloignement en fait culturel, mais aussi même le degré zéro de solidarité journalistique ou de considération en fait professionnelle pour le travail de confrères et de consoeurs ne s'est pas fait. Puisque justement, les voix des journalistes palestiniens, et pourtant Dieu seul sait s'il y a des journalistes à Gaza qui parlent, en plus, on sait que en Palestine en général et en Gaza en particulier, il y a un taux d'enseignement et notamment d'enseignement supérieur qui est un des plus importants du monde arabe. Tout le monde va à l'université, tout le monde a des diplômes, donc tout le monde est bilingue voire trilingue. Ce n'était pas compliqué, en fait, d'avoir des journalistes palestiniens qui parlent anglais, qui parlent français, et qui pouvaient intervenir, en fait, par exemple, sur des chaînes françaises ou dans des médias français. Preuve, nous, on a notre correspondant là-bas qui écrit en français et qui juste raconte son quotidien, ce qui permet juste de se rendre compte de ce que c'est que de survivre en plein génocide. C'est clair qu'il y aura toujours... on se souviendra, je pense, longtemps, en tout cas, je l'espère, de l'après, de ce qu'a été, en fait, l'après 7 octobre et la couverture médiatique de Gaza. Après, je pense que... Mais là aussi, c'est... comment dire ? Pour ne peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que il y a la grille de lecture, on va dire nord-sud, monde occidental, monde arabe ou arabo-musulman, mais il y a aussi, en fait, je pense, la question capitalistique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut du côté occidental ne pas mettre tout le monde dans le même. Nous, on est par exemple Orient 21, on est un média indépendant, et en tant que média indépendant, parce qu'on est un média indépendant, on est, je pense, un allié des journalistes en fait. Et un des piliers de notre ligne éditoriale, c'est justement, et c'est pour ça que dès le lancement d'Orient 21, il y avait une édition en arabe et une page du site en arabe, parce qu'un de nos objectifs, c'est par exemple d'avoir des journalistes arabes qui écrivent chez nous, et pas juste ceux qui écrivent et qui maîtrisent le français et l'anglais, mais y compris ceux arabophones qui écrivent en arabe, pour qu'ils puissent en fait écrire chez nous des articles qu'on traduit et qu'on dise en fait... Il n'y a pas que les Blancs, en fait, qui ont le droit de travailler, de parler du monde arabe. Les Arabes ont aussi le droit de parler d'eux-mêmes, en fait. Et en ça, je pense que des sites comme le nôtre, des médias indépendants, peuvent être des alliés objectifs, en fait, des confrères et des consoeurs du monde arabe.
Est-ce que ça peut être aussi une clé pour desserrer cette question de colonisation, ou au moins aller vers cette décolonisation de l'information qui est de plus en plus de médias indépendants comme ça, mais qui fonctionne aussi de pair avec des médias qui ne sont pas des médias indépendants, et qui, mais que ça crée un moteur à tout ça.
En tout cas, ce que je constate, c'est-à-dire que, comme par hasard, les médias, si on prend l'exemple de la France, les médias, on va aller au hasard Bolloré, sont, comme par hasard, ont un discours qui, comme par hasard, va plutôt dans un sens où on va plutôt, comment dire, nourrir une certaine vision du monde, aller dans le sens d'un certain courant politique, au hasard l'extrême droite, etc., etc. Donc en fait, on peut pas, pour moi, c'est important de lier la question justement politique à travers les médias, enfin à travers justement la question de la décolonisation, avec la question économique de les gros médias, les grands milliardaires qui accaparent, qui veulent contrôler l'information et donc contrôler aussi notre manière de penser, avec justement cette question-là. Je pense que voilà, comme je le disais, c'est et le capitalisme, enfin l'argent n'a pas d'odeur, donc de même qu'on peut avoir des Bolloré du Nord peuvent aussi avoir des alliés avec les Bolloré du Sud, de même que en fait les médias indépendants du Nord qui ont justement des rédactions qui ont conscience en fait de ces enjeux-là peuvent être des alliés des journalistes du Sud.
Je voudrais qu'on continue sur cet aspect de décolonisation en allant vers quelque chose d'un peu moins traditionnel que le journalisme a connu depuis sa création, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, d'Internet dans la profusion de l'information et de comment elle passe d'un point A à un point B. Ça a été important aussi, l'arrivée des réseaux sociaux, l'importance d'Internet. Si on prend l'exemple d'Agiplus, qui est strictement disponible sur les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen, du coup, d'avoir un public, de donner de l'information et, du coup, de participer à cette décolonisation en ayant une information un peu plus directe, voire quasi directe.
C'est une transition du pouvoir, en fait. C'est-à-dire que dans une salle de rédaction traditionnelle, le pouvoir est complètement dans la main du journaliste, qui contrôle y compris la vision artistique et créative de son reportage. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on n'a pas seulement rompu ce modèle, en donnant, en fait, chez Agiplus, 30% de l'histoire, c'est en fait une vision artistique qui est donnée par l'artiste et non pas par le journaliste, 30% par la rédaction, c'est-à-dire éditoriale, et 30% par les stratégies du contenu. On n'a pas seulement rompu ça, mais on a rompu aussi la façon de présenter les histoires. L'objectivité, pour moi, merci beaucoup, l'objectivité, c'est en fait le journalisme colonial, c'est l'objectivité. On a aussi rompu l'objectivité, la subjectivité, elle marche beaucoup mieux pour faire sentir l'histoire aux gens. Donc en fait, quand on a un journaliste, on a mon collègue Rémi qui est parti revisiter son camp de réfugiés, il est rwandais. Il a revisité, il a fait un reportage qui, à la fin, a fait tellement écho avec les Nations Unies, avec les deux gouvernements camerounais et rwandais, que les sans-papiers ont eu des papiers, en fin de compte. Parce qu'il a raconté l'histoire, son histoire. Parce qu'en fait, on a nos histoires. Moi, je suis palestinienne et je n'ai pas honte de raconter l'histoire depuis mon point de vue palestinien. Et c'est ça, en fait, décoloniser aussi. C'est humaniser toutes les histoires. Et en fait, il y a un point de rencontre. Si on décolonise de cette façon-là, il n'y aura plus de blanc et non-blanc. Parce qu'on va se rencontrer dans l'humanité. Et j'ai vu ça dans les universités, soit aux États-Unis, soit en Europe, quand j'ai visité l'année dernière. Comme l'a très bien dit Sarah, en fait, on est colonisé aussi par le capitalisme. On est colonisé par un système qui nous marginalise. Donc, on rompt ce schéma en réhumanisant les histoires. Après, il faut utiliser les dialectes, il faut reconnaître les langues, il faut reconnaître les accents. Cette histoire de parler un langage standard que tout le monde doit faire semblant de parler, merci beaucoup, c'est pas réel. C'est pas réel, c'est pas comme ça qu'on va arriver au cœur des gens. Contextualiser, c'est très important, c'est ce qu'on fait aussi chez Agiplus. C'est-à-dire le 7 octobre, c'est pas que les gens se sont réveillés le 7 octobre et puis allez, on va attaquer Israël. Ça fait plus de 70 ans que l'injustice. Il y a un 7 octobre tous les jours en Palestine, envers les Palestiniens. Donc contextualiser, c'est très important. Souvent, on voit que l'histoire commence là où le colonisateur a son premier contact avec le colonisé. C'est comme si, voilà, encore une fois, l'Amérique latine n'existait pas avant l'arrivée des colonisateurs. Ce n'était pas une découverte, c'était une colonisation. Et la même chose avec le 7 octobre. C'est comme si c'était des fous, des Palestiniens fous qui, voilà, se sont levés. Bah, c'est des Palestiniens qui voulaient rentrer chez eux. Je ne justifie pas, évidemment, c'est une longue histoire, mais c'est des Palestiniens qui voulaient rentrer chez eux. Comme moi, j'aimerais bien rentrer chez moi. Je suis palestinienne, j'ai été chassée de chez moi, mes parents aussi, mes grands-mères, ma grand-mère, mon grand-père. Et voilà, contextualisé à travers les réseaux sociaux, ça fait que quelqu'un mapuche au Chili, c'est-à-dire un autochtone du Chili, va sentir la même chose que moi et on va trouver cette rencontre sud-sud, mais aussi nord-sud, comme je l'ai bien dit. Donc les réseaux sociaux, c'est en fait très puissant. Et ça fait aussi que les journalistes palestiniens nous parlent directement de Gaza. Donc moi, je pense que ça joue un rôle très important pour que TikTok, Instagram deviennent un moyen de communication. En face d'eux, il y a le New York Times, le Washington Post, qui continuent à utiliser un langage colonial que personne ne croit. Et c'est pour ça qu'ils veulent fermer TikTok, tout ça. C'est parce que les études le démontrent que l'opinion en fait, des jeunes sur TikTok a changé complètement. C'était pro-israélien avant le 7 octobre, et maintenant c'est pro-palestinien. Et c'est grâce aux juifs. C'est grâce aux juifs blancs aux États-Unis qui ont pris en main cette mission de re-raconter leur histoire aussi. L'histoire qui leur a été racontée très mal, en leur disant qu'il n'y avait personne en Palestine quand les Juifs sont arrivés. Non, il y avait ma grand-mère qui a reçu les Juifs, qui leur a donné une couverture et de l'eau et de la bouffe. Après, on l'a chassée en dehors de sa patrie. Et c'est ces Juifs-là qui ont commencé à raconter l'histoire. Évidemment, c'est malheureux parce que c'est quand l'homme blanc qui raconte l'histoire, c'est crédible. Quand on la raconte nous, c'est moins crédible. Mais je pense que voilà, on arrive à un moment où on peut unir nos forces ensemble pour arrêter de faire cette division, parce que cette division, elle n'est pas bonne pour personne.
Peut-être que Sarah, tu veux rebondir, après je vous poserai une dernière question. Je vois que tu prenais note depuis tout à l'heure,
oui,
je pense que tu as envie de rebondir.
Non, juste deux points auxquels je pense en entendant Dima parler. Quand justement tu parles de la présence de journalistes et de Palestiniens sur les réseaux sociaux, c'est une des raisons pour lesquelles l'invisibilisation en fait l'invisibilisation de ce qui se passe depuis un an et demi à Gaza, surtout les premiers mois, a été très problématique, c'est que on pouvait pas dire qu'on savait pas. Je veux dire, c'était comme l'a dit l'avocate irlandaise qui a plaidé auprès de la CIJ, la Cour internationale de justice, sur la question du génocide commis par Israël, qui est toujours en cours à Gaza. On est devant le premier génocide live streamé de l'histoire. C'est un génocide qui se passe en direct. On se souvient tous les premiers mois, enfin avec les bombardements intenses, il y avait des vidéos de jeunes Palestiniens et de jeunes Palestiniennes qui se filmaient pendant les bombardements en appelant les gens, et ils se filmaient en anglais. Et c'était très marquant. C'est-à-dire que si vous êtes menacé, je pense que pour faire l'effort de parler en anglais, de se filmer et d'envoyer ça en espérant, c'est une sorte de bouteille à la mer qu'on envoie comme ça, en espérant que quelqu'un entende et que quelqu'un vienne vous sauver, ça en dit long sur le degré de désespoir. Et face à ça, en fait, n'avoir aucun écho de ça, comme si, et avoir l'audace ou l'outrecuidance de dire « Ah, mais on ne savait pas, si ». On savait, il suffit d'ouvrir Instagram pour savoir. Et justement, sur les réseaux sociaux, alors il y a eu le shadow banning, bien sûr, sur Meta, Facebook, Instagram, Twitter, etc., même LinkedIn d'ailleurs. Donc, où en fait il y avait les algorithmes qui faisaient en sorte que les publications qui contenaient le mot Gaza, sionisme, génocide, etc., étaient mises de côté, avaient moins de reach, étaient moins visible par les autres, etc. Mais ce qui est amusant en même temps, entre guillemets, c'est que sur Instagram, par exemple, l'algorithme fait aussi, là, je parle de mon expérience personnelle, moi, je suivais déjà des gens qui étaient à Gaza, et en fait, plus vous suiviez des gens de Gaza sur Instagram, plus vous aviez de suggestions d'autres contenus de Gaza. Parce que, en fait, les algorithmes aussi fonctionnent de sorte à ce qu'on vous garde, en fait, sur la plateforme, donc à ce qu'on vous propose du contenu qui vous intéresse. Et du coup, c'est intéressant parce que, même si on sait que les réseaux sociaux, Meta, X, etc., sont détenus là aussi par le grand capital, mais on a des possibilités aussi de retourner le capital contre lui-même, en fait, et d'utiliser ses propres outils contre lui, en fait, et de dire, ok, vous voulez que je reste, moi je reste, donnez-moi, en fait, filez-moi de la matière, montrez-moi ce qui se passe en Palestine, au Soudan, au Yémen, qui est aussi bombardé et qui reviennent 10 ans en arrière maintenant avec les bombardements de monsieur Donald Trump, filez-moi tout ça et je reste, moi, sur votre réseau.
J'ai une dernière question à vous poser puisqu'on arrive un peu à la fin de ce moment ensemble. Elle sera assez simple et encore une fois, je me réfère au public qu'il y a devant nous, puis c'est un public jeune. Si vous aviez, vous, de votre expérience, un conseil ou, je sais pas, quelque chose que vous voudriez dire à un de ces jeunes, pas pour le motiver, mais pour si il ou elle veut devenir journaliste, qu'est-ce que vous lui diriez ? Et aussi, sur cet axe de question de décolonisation de l'information, peut-être comment vous lui conseillerez de traiter les informations et du coup, in fine, de décoloniser aussi l'information. C'est une grande question, c'est une petite grande question, j'en suis désolé, mais voilà, ça sera ma dernière en tout cas.
Suivez AJ+, déjà, pour apprendre à décoloniser l'information. Soyez réel, soyez vous-même, je crois que c'est le plus important pour moi. Quand on fait du journalisme aujourd'hui, ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'être comme quelqu'un d'autre. Vous avez une histoire, vous avez une vie qui est certainement intéressante. Et un point de vue, n'ayez pas peur de votre point de vue, parce que c'est ça ce qui fait la différence. Donc voilà, soyez réel, soyez vous-même.
Ça peut sembler provocateur, mais moi j'aurais envie de leur dire ne faites pas d'école de journalisme. Parce que, les écoles de journalisme vont vous apprendre la technique, vont vous formater très bien. On aura des promotions, à part les écoles qui maintenant sont aussi rachetées par LVMH et Bolloré et compagnie. Très bien, vous saurez faire, vous saurez écrire, faire du montage, filmer, etc. Mais vous n'aurez pas la matière, en fait. Et je pense que une des meilleures manières d'être un bon journaliste, c'est d'avoir un esprit critique. Et l'esprit critique, c'est que ça commence par le fait de s'outiller. Et c'est ce qu'on, nous, on dit aussi aux gens concernant aussi la question palestinienne. Les gens viennent voir, mais qu'est-ce qu'on fait sur la Palestine? Informez-vous, lisez des livres, informez-vous sur l'histoire de la Palestine, du Maghreb, sur l'histoire de France aussi, parce qu'on parle tout à l'heure de colonisation. À un moment, on avait publié un éditorial commun sur Orient 21 et Afrique 21, qui sont tous les deux des médias indépendants et en libre accès, un éditorial qu'on avait intitulé « L'histoire coloniale fait partie de l'histoire nationale ». Arrêtez, en fait, de traiter l'histoire coloniale comme si elle ne concernait que les peuples du Sud, comme si elle ne concernait que les Maghrébins, les Libanais, les Syriens, les Palestiniens, etc. Elle vous concerne aussi au premier plan, parce que ce sont vos grands-parents, ce sont vos présidents, ce sont vos gouvernements qui sont allés faire la guerre là-bas et qui sont allés coloniser ces peuples-là. Donc, apprenez des choses sur votre histoire et le monde ira mieux, on espère. On parle de colonialisme, de colonisation et de décolonisation. Si vous... Là, on a une librairie ici, on est aux Assises, on a une très bonne librairie avec un stand là-bas. Il y a plein de très bonnes librairies indépendantes à Marseille. Vous entrez dans n'importe laquelle de ces librairies, vous trouverez de très bons livres d'histoire sur l'Algérie, sur la Palestine. Il y a de très bons chercheurs en France qui écrivent sur ces thématiques-là, mais on n'en voit pas le reflet dans la vie publique. Donc, outillez-vous, apprenez, lisez et ça aura forcément un impact à moyen ou long terme.
Dima, Sarah, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. À très bientôt peut-être sur les ondes de Grenouille pour continuer et ouvrir encore plus ces questionnements. Et je vous propose qu'on se fasse une courte pause avant d'attaquer notre prochaine interview.
Les Assises méditerranéennes du journalisme, rencontres et débats en direct du Palais du Pharo à Marseille.
De retour ici sur ce plateau depuis les Assises 2025 du journalisme. On parlait de décoloniser l'information et maintenant on va parler aussi des nouvelles voies et les nouvelles éducations aux médias avec Timothée Vinchon. Bonjour Timothée, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va. Très heureux de voir autant de personnes s'intéresser aux enjeux de la Méditerranée et de voir aussi des jeunes se pencher là-dessus.
On en parlait tout à l'heure avec Dima et Sarah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ici et toi tu, est-ce qu'on peut le dire, es spécialiste des EMI ? Où tu pratiques l'EMI ?
Alors, on va poser le terme EMI, qui est l'éducation aux médias. On peut dire que je suis spécialiste un peu de l'éducation aux médias, dans le sens où moi, toute une partie de mon métier, je considère que toute une partie du métier de journaliste est d'aller à la rencontre de public pour expliquer son métier, mais aussi pour donner les clés de ce que c'est le journalisme, ce que c'est faire du média. À Radio Grenouille, vous le savez encore mieux que moi, peut-être. Faire du média et donner les clés à différents publics pour produire des contenus journalistiques.
C'est vrai que tout à l'heure, donc, avec Dima et Sarah encore, quand on leur a demandé un conseil à donner à des jeunes, elles nous ont dit de ne pas forcément faire une école de journalisme. Faire du journalisme, ça ne passe pas forcément par faire une école de journalisme.
Pour moi, faire du journalisme, et je suis complètement d'accord avec elle parce que je n'ai pas non plus fait d'école de journalisme. Le journalisme, c'est vraiment pour moi l'école de la curiosité. Et tout ce qu'on apprend finalement auprès de nos pères quand on apprend le métier sur le tas, c'est cette curiosité, aller vers des sujets, aller vers des personnes, etc. Et finalement je pense que c'est ça le plus important, et c'est le seul conseil que je donnerais, moi, être hyper curieux.
À quel moment ta démarche sur la question de l'éducation aux médias elle commence? À quel moment tu t'intéresses à ça? À quel moment tu t'intéresses à la passation de savoir, entre guillemets?
Elle commence assez rapidement dans mon métier. Moi, j'ai commencé mon métier en Tunisie. J'étais pas journaliste, je travaillais dans la société civile en Tunisie. Et je me suis rendu compte que le média était vraiment un outil qui permettait de s'emparer de sujets et de transformer la société. Et quand je suis revenu en France, j'ai vu ce mouvement de l'éducation aux médias qui se mettait en place. Et je me suis dit que c'était essentiel finalement de s'y impliquer. Et autant pour des publics jeunes que pour des publics plus âgés, c'était hyper important de se servir de cet outil qu'est le journalisme pour porter des sujets, pour porter des nouvelles voix, pour porter des enjeux de société finalement.
Tu travailles sur plusieurs milieux. L'un d'eux, c'est le milieu carcéral. Quand on pense milieu carcéral, c'est pas forcément l'accès à l'information qui ressort en premier. Pour le coup, c'est très médiatisé, le milieu carcéral, mais peu de l'intérieur, beaucoup de l'extérieur et des institutions qui les constituent. Là, tu vas à l'intérieur de ce milieu carcéral pour faire ressortir ce qu'il y a dedans.
Alors, effectivement, toute une partie de mon métier, et j'ai la chance de le faire en travaillant avec l'association 1538 Méditerranée, notamment, et l'Agence régionale du livre, c'est d'aller dans des établissements pénitentiaires pour adultes ou pour jeunes, pour travailler avec ces différents publics à créer des contenus qui racontent ce qu'ils vivent, mais aussi transmettre différentes informations. Là, dernièrement, par exemple, on a fait un atelier avec des pères de famille qui, pour certains, ont très peu vu leur enfant parce qu'il est né au moment où il était déjà en prison. Et qui ont fait travailler à différents contenus racontant la petite histoire qu'ils vivent et les enjeux qu'ils ont autour de la parentalité, et ils ont créé tout un petit journal qu'ils ont pu transmettre à leurs enfants à la sortie au parloir de la prison.
Comment toi tu vas créer tes séances, donc c'est des séances de travail, sur quoi tu te bases? Tu fais d'abord un repérage, tu t'entretiens avec les gens, ou est-ce que tu arrives déjà avec quelque chose qui est préétabli?
Ça dépend un peu de ce qu'on a, les informations qu'on peut avoir et la disponibilité des publics pour travailler ensemble au sujet qui intéressera tout le monde. L'idée, et c'est le cas le plus souvent, c'est de réussir à inclure le public dans la proposition et dans les enjeux qu'ils vivent. Donc certaines séances qu'on fait, on a une vague idée de ce vers quoi on va aller, mais on interroge le public sur les enjeux, par exemple, d'un quartier. Beaucoup, quand on est dans un quartier populaire notamment, ou dans une zone rurale spécifique, par exemple, se dire en fait quels sont les enjeux qui traversent la jeunesse à cet endroit-là. Typiquement, assez souvent, ça va être comment on se sent représenté dans les médias. Moi, je fais aussi partie d'un projet qui s'appelle la Caravane des médias, un projet qui, en fait, va dans les différentes zones rurales de différents départements pour discuter avec les habitants de comment ils se sentent représentés dans les médias. Et on voit que, par exemple, beaucoup de jeunes qu'on croise nous expliquent qu'en fait, les jeunes qu'ils voient dans les médias ne sont absolument pas eux. Parce que quand tu habites à Apt, j'en sais rien, ou une ville comme ça, tu te sens pas en fait le jeune qu'on voit beaucoup à la télévision, qui est souvent, et malheureusement les médias sont comme ça souvent, de Paris ou à proximité de Paris, et en fait ton histoire elle est tout autre, et t'aimerais bien avoir un endroit où elle est racontée, pas forcément la raconter toi. En l'occurrence là, grâce à l'éducation aux médias, on donne ces outils pour la raconter. Mais en tout cas voilà, il y a vraiment ces questionnements là et je trouve ça hyper intéressant d'aller donner les clés pour le faire.
Aujourd'hui, l'EMI est beaucoup mis en avant dans les politiques publiques. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre le discours officiel et la réalité de ce qui se passe vraiment sur le terrain, de toi, comment tu vis tes ateliers ?
Il y a une petite différence dans le sens où, et c'est compréhensible aussi, l'éducation aux médias et à l'information dans les discours officiels est beaucoup axée sur lutter contre les fake news, éduquer à l'information, savoir comment bien lire un article. Et sur le terrain, et Radio Grenouille est aussi, encore une fois, une des associations qui fait le taf là-dessus, mais on est de très nombreuses associations, et là on est en train d'essayer de constituer un réseau. Par exemple, en PACA, des associations qui travaillent sur le terrain, on est plus de 50 personnes et 50 structures à se rassembler pour travailler ensemble, où en fait on se rend compte que la meilleure façon d'éduquer à l'information, c'est vraiment en fait finalement de faire de la médiation à l'information et de donner encore une fois les outils, de poser une table de mixage et de proposer à des jeunes de s'emparer de l'outil pour raconter leur propre histoire. Et il y a vraiment, je trouve, ce mouvement qui est superbe, de se dire qu'en fait de plus en plus d'acteurs sont sur le terrain pour donner ces outils aux jeunes et aux moins jeunes.
Ma dernière question, toi dans le futur, quel récit t'aimerais faire émerger, quel sujet t'aimerais faire émerger? T'as aussi travaillé sur le milieu rural, peut-être que tu peux en parler aussi si t'as envie, mais vers quoi tu voudrais tendre là comme nouvelle thématique, comme nouveau sujet ou comme nouveau public avec lesquels tu pourrais travailler?
Moi mon enjeu c'est pas tant de trouver un nouveau public à faire parler, que de faire en sorte que de plus en plus ce soit logique. Que les plateaux radio, que les outils du média soient dans les mains de tout à chacun pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir donner son opinion sur un sujet, pour pouvoir, quand on est concerné par un sujet, expliquer de son point de vue ce dont on parle. C'est vraiment, vraiment ça pour moi le plus important. Et encore une fois, le fait de travailler en réseau là-dessus, le fait que des acteurs, mais que ce soit dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes, ici à Marseille, on se met en réseau. Ça permet vraiment de donner de la place à tout le monde de s'exprimer. Et moi, l'enjeu, il est vraiment là, je trouve.
J'ai menti. En fait, j'avais une dernière question. Et là, qui sera vraiment la finale, puisqu'elle est très ouverte. Enfin, pas très ouverte, mais plutôt très marquée. Est-ce que tu te souviens d'un moment, d'un atelier, peu importe avec le public, qui t'a particulièrement marqué, où tu t'es dit « Ah, c'est pour ça que je fais ça » ou tout simplement qui est sorti des frontières de ce à quoi tu pouvais t'attendre?
Il y en a plusieurs. Je pense notamment à un moment, donc, comme je te disais, on a fait un projet qui s'appelle la Caravane des médias, qui va à la rencontre des habitants pour discuter avec eux de leur rapport à l'information et comment ils se sentent représentés dans les médias. Et en discutant sur une place de village, pour le coup c'était en Picardie, on a une personne plus enfin, on va dire une personne âgée qui est venue nous rencontrer, avec qui on a beaucoup discuté, et qui nous expliquait qu'en fait, lui, il était un peu triste, parce qu'en fait, dans son patelin, dans son village, il y avait, pendant longtemps, il y a eu un journaliste de presse quotidienne régionale, et il expliquait qu'en fait, lui, ce qu'il avait l'impression, c'est que c'était vraiment ce lien à l'information En gros, ce qu'il nous expliquait, c'est que le journaliste, c'était comme le boucher ou la boulangère. Il y avait quelqu'un que tu pouvais aller voir pour discuter de l'information, pour discuter de ton information évidemment, mais aussi même des enjeux nationaux, internationaux, et qui t'aidait un peu à décrypter l'information. Et voilà, c'est ça que je me suis vraiment dit, c'est qu'il y avait besoin de ce journaliste qui redevienne un peu médiateur de l'information. Et que c'est ça qui nous manquait actuellement. Voilà. Ça, c'était vraiment un des points qui m'avait marqué.
Merci beaucoup, Timothée, d'avoir été avec nous pour ce plateau. Peut-être à très bientôt sur les ondes de Grenouille pour nous parler d'éducation populaire et de
EMI. Quand vous voulez, franchement.
Et on va continuer ce plateau après une petite virgule.
Les assises méditerranéennes du journalisme, rencontres et débats en direct du Palais du Pharo à Marseille.
Marie-Laure Ogry, bonjour, vous êtes une figure majeure du journalisme français, ancienne présentatrice télé. Je suis très dithyrambique dans mes introductions, médiatrice de l'info. Vous êtes surtout reconnue pour votre travail autour de l'éthique et de la question de déontologie et de transmission. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de l'association qui s'occupe de ces assises du journalisme ici à Marseille. Ça représente quoi pour vous ce moment ici à Marseille? Parce qu'on a été, vous avez été à Tours, ça arrive à Marseille. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi Marseille? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Alors d'abord, oui en effet, journaliste et citoyenneté depuis 20 ans maintenant, à l'initiative de Jérôme Bouvier. Alors c'était nécessaire il y a 20 ans, c'est indispensable aujourd'hui si j'ose dire, vu l'évolution du contexte, c'était de créer des lieux d'échange, de dialogue, de réflexion autour de l'information en général, mais pas de notre soi ou que des journalistes se retrouvent, non, avec des journalistes, des chercheurs, des étudiants et surtout des citoyens, que c'était important. Et je pense que c'est majeur. Alors, pourquoi Marseille? En 2018, on s'est dit qu'il était important de décliner les assises sur tout le bassin méditerranéen. Et c'est comme ça qu'on a fait deux rendez-vous à Tunis, qui ont été des parenthèses magiques, parce que, en effet, des journalistes venant d'une trentaine de pays, ayant des difficultés pour se voir en dehors d'un moment comme celui-là qui les rassemble, avec des échanges très forts, des témoignages où on se rend compte de la difficulté d'être journaliste dans des pays où il y a la tension, où il y a la guerre, etc. Voilà. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, la situation en Tunisie aujourd'hui ne nous a pas permis de faire une troisième édition. Et à partir de là, c'était évident que c'était à Marseille qu'il fallait venir. Voilà, Marseille, ville symbole, Marseille sur la Méditerranée, Marseille qui fait le lien entre les deux rives de la Méditerranée, comme la volonté de ce rendez-vous. Donc, voilà, Marseille, c'est magique.
Et la thématique de ces assises cette année, c'est le journalisme engagé.
Voilà, et l'avenir du journalisme aujourd'hui, au-delà d'un constat qui a été évoqué tout à l'heure sur la Palestine, sur la Syrie, il y aura une soirée consacrée à Gaza demain soir à la Friche. au-delà de ça, c'est de dire que le journalisme, il est encore plus indispensable aujourd'hui et qu'il faut se donner, il faut l'envisager de manière, on va dire, positive. C'est pour ça que la place est donnée à des initiatives. C'est pour ça qu'il y a des ateliers justement qui sont là en quelque sorte pour faire le constat d'évolution, d'initiatives qui sont prises, de nouveaux modes de fonctionnement de journalistes collaboratifs. Voilà, donc le journaliste de demain, dans un contexte aussi compliqué, difficile qu'aujourd'hui, comment on peut l'envisager? Alors, ce n'est pas la solution miracle, mais l'important, c'est de se parler, c'est d'échanger, c'est de se donner des moyens aussi pour aller plus loin.
Il y a eu ce témoignage de Sarah et Dima qui nous parlaient de ne pas faire forcément d'école de journalisme pour devenir journaliste. Et on vient de recevoir Timothée aussi qui nous expliquait que grâce aux EMI, à l'éducation aux médias, à l'information, il y a aussi d'autres moyens d'entreprendre du journalisme. Pour vous, ça rentre en résonance aussi cette question d'éducation aux médias?
Oui, alors l'éducation aux médias, c'est pour nous quelque chose pour lequel on milite à Journalistes et Citoyenneté depuis le début. On est très content d'avoir pu réunir, alors qu'il y a 3 mois, on ne savait pas si on est à Marseille, d'avoir pu réunir 1000 scolaires sur 2 jours en leur proposant des ateliers. Voilà, à Tours, il y avait plus de 1500 scolaires. Alors, l'EMI, oui, l'EMI en milieu scolaire, mais pour nous, on se dit que l'EMI, c'est tout au long de la vie. C'est pour ça que quand il y a la caravane des médias, comme tout à l'heure, ça c'est important d'aller à la rencontre des gens et qu'on s'aperçoit que cette éducation aux médias, parfois elle est presque plus nécessaire, je veux dire aux grands-parents qu'aux petits-enfants, qui peuvent être plus vigilants alors que, et qui peuvent même alerter les grands-parents. Donc cette éducation aux médias, elle est essentielle et tout au long de la vie, il ne faut pas uniquement la limiter au milieu scolaire. Mais moi, depuis que j'ai commencé ce métier, donc il y a très longtemps, ça date de Mathusalem, voilà, j'ai toujours eu...
Il y a à peine 20 ans, finalement.
J'ai toujours eu, en effet, une forme de militantisme pour l'éducation aux médias.
Je voudrais qu'on revienne un peu sur Marseille, et même précisément sur le lieu où on se trouve, on est au Palais du Pharo. Il y a l'entrée du vieux port, une des plus belles vues de Marseille. Il y a aussi cette chose de multiculturalité à Marseille, oui. Et qu'on se doit aussi de retrouver dans le journalisme. On parlait aussi tout à l'heure dans la question décolonisation de l'information de faire apparaître ces voix qui sont présentes sur ces territoires, qui sont persécutées, qui connaissent des destins tragiques en ce moment. C'est aussi un moment pour ça, de réunir des gens de Palestine, de Syrie, de Tunisie, et qui parlent entre eux et qui aussi, sans être trouver des solutions à ces problèmes, mais qui se retrouvent et qui puissent expérimenter ensemble.
Qui parlent entre eux, et on voit à quel point c'est important, et qui nous parlent aussi, hein, parce que je pense qu'ils ont des leçons à nous donner, ils nous interpellent, et décoloniser l'info, ça va être le débat de fin de journée, aujourd'hui, parce qu'en effet, c'est une interrogation qui nous semblait importante de se poser, et c'est vrai que le conflit israélo-palestinien a montré que voilà, il y avait des reproches qui étaient faits aux médias occidentaux dans la façon de couvrir l'événement, et c'est pour ça que l'urgence de se parler, c'est quelque chose auquel on est très attaché, et que au mois de février on a organisé à l'Institut du Monde Arabe une rencontre sur une journée où on s'est tous retrouvés autour de la table, d'une part pour faire un constat, pour s'écouter dans l'appréhension qu'on avait chacun de la couverture des événements, et pour essayer de mieux se comprendre et de se parler. Et ça, c'est important, et ça, c'est un peu l'ADN de Journalistes et Citoyenneté. C'est ce qui se passe ici, bien sûr, à Marseille.
Et est-ce que c'est suffisant, ou est-ce qu'il y a encore d'autres pierres à mettre à l'édifice?
Se parler pour faire ensemble.
Se parler, oui, mais après,
aller au-delà, bien sûr. Se parler pour aller au-delà, oui. Mais ça, c'est des choses...
avec des moments comme ceux-ci.
Avec des moments comme ceux-ci, avec à travers des rencontres et des ateliers qui permettent d'émerger, y compris des initiatives. C'est ça qui est important. Et c'est des rencontres comme ici à Marseille, ce sont des moments privilégiés.
Ça sera ma dernière question. Qu'est-ce qui vous marque particulièrement sur cette édition marseillaise qui vient à peine de commencer?
Elle vient juste de commencer.
Mais peut-être dans la présence de certaines personnes.
Exactement. C'est à la fois où on sent à quel point c'est important de pouvoir se retrouver. Mais je vois par exemple, et ce qui est important, et ça a été le cas dans votre émission, c'est d'entendre des gens et d'avoir ces témoignages. Ça nous permet quand même de mieux comprendre la situation. Et puis, c'est facile d'être journaliste en France aujourd'hui. D'être journaliste à Gaza, c'est autre chose. Donc, c'est ces prises de conscience qui sont là, et ces témoignages. Et je vois, hier soir au Mucem, le témoignage porté par Lorient Le Jour était très, très émouvant. Les deux tables rondes sur la Syrie, c'est pareil. Et là, on comprend beaucoup plus facilement. Alors, on en parle et on le fait au mieux. Et moi, j'ai une admiration totale pour les journalistes correspondants de guerre, des rédactions en France qui vont sur le terrain. Mais voilà, leur témoignage à eux, ça donne de la chair, de l'humanité, et ça amène à approfondir la réflexion.
Marie-Laure Ogrim, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour conclure ce magnifique plateau. Avec
merci de votre présence pendant ces assises.
Et ben c'est tout à fait normal. On vous remercie aussi parce que nous, on a à cœur chez Grenouille d'avoir cette représentativité à la radio. On ne fait pas de la radio pour les gens, mais les gens font la radio avec nous. On fait la radio est faite par les gens, par le public marseillais le plus souvent, mais aussi par ce public international qui est venu nous parler aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour avoir offert cette opportunité.
D'être là.
Et peut-être à très bientôt sur les ondes de Grenouille.
Oui, mais quand vous voulez.
La porte est grande ouverte à la friche à l'aile de mai. Merci encore.
L'année prochaine pour des assises.
Nous serons au rendez-vous. Nous prenons note. Merci encore à Théo, merci à Émilie, merci à toutes les équipes de Grenouille, Marion, Roman, Jessie d'avoir été à la communication et d'avoir. Vous allez le voir très bientôt sur les réseaux sociaux de la Grenouille. Produit beaucoup de belles choses. On se quitte pour ce premier plateau. À très bientôt, chers auditeurs. C'était Antoine.
Merci Antoine.
Du 29 au 30 avril, les Assises méditerranéennes du journalisme s'installent à Marseille. Trois journées de rencontres et de débats réunissant journalistes et chercheuses. Le thème de cette édition, le journalisme de demain en Afrique et en Méditerranée. Écoutez nos deux émissions au cœur de l'événement, Les Voix méditerranéennes et le journalisme en résistance, en diffusion le mardi 29 avril à 17h30 et Femmes de plume, voix de combat, en diffusion le mercredi 30 avril à 17h30. Sur le 88.8 FM, DAB+, et sur radiogrenouille.com.